Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous recevons pour une troisième émission sur la maladie d'Alzheimer le docteur Denis Strubel. Je vous rappelle que Denis Strubel est gérontologue et a été chef de service de gérontologie à Serre-Cavalier, pôle gérontologique rattaché au CHU de Nîmes. Denis Strubel est aussi vice-président de l'association France Alzheimer Gare. C'est peut-être en sa qualité de vice-présidente de France Alzheimer Gare qu'elle va nous apporter beaucoup aujourd'hui. Bonjour à vous, docteur Strubel.
Bonjour, docteur Jaume.
Le patient atteint de maladie d'Alzheimer n'est bien souvent pas seul. Il est entouré de ce que l'on nomme les accompagnants. Qui peuvent être les accompagnants ?
Alors, la dénomination officielle, hein, puisque ça existe maintenant, c'est dans un texte de loi, c'est les proches aidants.
Les proches aidants,
c'est la dénomination officielle. Les proches aidants, ben, c'est avant tout le conjoint quand il existe encore, quand il est encore présent. Et en second lieu, c'est les enfants. Dans d'autres cas, quand il n'y a ni l'un ni l'autre, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un neveu-nièce, ça peut arriver. Mais c'est essentiellement les conjoints et les enfants.
D'accord. Et en proportion, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades d'Alzheimer qui ont comme accompagnant leur famille? Est-ce que ça 30, 40, aussi.
La grande majorité. Ah oui.
Donc c'est important, parce que la famille quand même existe. Bien tout ce qu'on dit, qu'il y a des problèmes autour de la famille, la conception de la famille, etc. Mais vous, en tant que médecin...
Le conjoint est toujours présent. Quand il existe, il est toujours présent. Alors, il est parfois pas vraiment très aidant. Il peut être parfois... il a ses difficultés lui-même. Mais quand il y a une fratrie, plusieurs enfants, il y a pratiquement toujours un aidant, un enfant qui est en première ligne.
Et pour les gens qui n'ont pas de famille, il y a quelqu'un qui est célibataire, donc il y a des cousins éloignés ou il n'y a pas de cousins, ça peut être des voisins, des proches, des membres d'une association, des anciens camarades de travail ou collègues de travail. C'est difficile.
Oui, c'est difficile. Hein. En général, dans ces cas, ça tient pas longtemps. Hein. Et les personnes, une personne qui a commencé une maladie d'Alzheimer et qui n'a aucun entourage proche, on essaye un maintien à domicile au début, mais assez vite, je pense qu'il faudra envisager une solution institutionnelle.
Ouais, alors on l'a pas trop évoqué, mais l'âge moyen de la déclaration de la maladie.
La moitié des malades ont plus de 75 ans.
Donc la moitié des malades
Plus de 80 ans, pardon. La moitié
a plus de
80
ans.
Si vous prenez la totalité des malades, la moitié a plus de 80 ans.
Donc leurs conjoints ont 91 ans aussi. C'est-à-dire que vous devenez conjoint aidant à 80 ans. Donc c'est pas évident, quoi.
Ça dépend de l'état de santé.
Et les plus jeunes malades de maladie d'Alzheimer?
Alors, les malades, on considère que ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer du jeune, c'est lorsque les symptômes commencent avant 65 ans. On ne sait pas exactement combien de personnes ça représente, mais c'est de l'ordre de 50 000 malades, alors que la totalité fait 1 million.
Il y a 1 million de Français
qui ont une maladie. Alors, on déborde maladies apparentées.
Il faudra faire une émission sur les maladies apparentées. C'est peut-être plus technique, parce que les gens parlent beaucoup de la maladie d'Alzheimer, mais ce serait intéressant, une émission sur la maladie d'Alzheimer. 5 minutes, on rappelle ce que c'est, évidemment. Oui. Et puis après, les autres troubles.
Oui. Alors, donc, pour répondre à votre question, l'âge moyen, ça n'a pas beaucoup de signification, parce que l'âge, on a une courbe exponentielle. Le nombre de malades augmente de manière exponentielle avec l'âge.
Ah,
donc, l'âge moyen, il doit être pas loin de 80 ans.
Une fonction âge, parce qu'on parle du vieillissement qu'une maladie. C'est une éventualité qui pourrait être médicale. Est-ce que l'âge favorise justement les mauvaises protéines qui créent...
Tout à fait, puisque dans le vieillissement normal, il y a des dépôts de protéines amyloïdes.
D'accord.
Oui, l'âge est le premier facteur de risque de la maladie.
Alors, dans la maladie d'Alzheimer, il y a rupture au sein du relationnel entre le patient et son entourage. Ils n'ont plus le même relationnel qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Il n'y a pas séparation, il y a rupture.
Non, il y a rupture. Comprenez-moi bien,
c'est différent. La montée de rupture, c'est la différence. Qu'en est-il de cette rupture ? Qu'est-ce qui se passe dans le relationnel entre le malade d'Alzheimer et son entourage ?
Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape du diagnostic qui entraîne parfois des conséquences comme un tsunami. La famille, le proche aidant accompagne la personne malade pour faire le diagnostic. Et quand ce diagnostic tombe, c'est dur pour la personne malade, c'est dur pour l'aidant parce qu'il avait imaginé une autre retraite, avait plein de projets qui risquent d'être compromis, etc. Donc il y a une espèce de sidération. Et ensuite, chacun essaie de s'adapter. L'aidant va s'appuyer sur ses ressources personnelles, qu'il a toujours plus ou moins, mais il essaye de bien faire, mais il ne fait pas toujours bien.
Oui, c'est ça. C'est pas facile d'être aidant.
Non, ça s'apprend. Et c'est un des rôles de l'association. Si vous voulez, de manière caricaturale, il y a deux extrêmes qui ne sont pas des bons comportements. Il y a l'aidant qui va hyperstimuler la personne, va la corriger, mais ça, tu l'as déjà dit, arrête de répéter, tu as perdu encore tes clés, etc. Enfin, va stimuler, va dire, il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça, donc très autoritaire, ça c'est pas bon, c'est pas bon pour la personne malade qui est diminuée, qui annule sa personnalité, etc. L'autre extrême, c'est la famille qui va mettre la personne malade dans un cocon, va l'hyperprotéger, sous cloche, va tout décider à partir du moment où elle a Alzheimer, donc elle ne comprend plus rien, elle n'a plus à décider, c'est moi qui fais tout. Donc voilà, vous avez ces deux extrêmes et entre, vous avez toutes sortes de combinaisons. Et notre rôle, c'est d'apprendre à la famille à prendre en compte la personne malade comme elle est, à s'adapter à elle, à la valoriser, à augmenter son estime d'elle pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, et à se protéger.
Ce travail, en fait, de former les aidants, vous le faites au niveau de l'association.
Oui.
France Alzheimer, mais les institutions qui soignent des malades d'Alzheimer, est-ce qu'ils font aussi des formations ? Est-ce que vous êtes au courant de formations pour les aidants, d'accompagnement pour les aidants ?
Dans les consultations mémoire, où on suit les personnes sur le long pendant des années, comme je disais, il y a un temps malade, il y a un temps aidant, donc on s'occupe de l'aidant aussi. On lui donne la parole, on reste attentif à ses signaux de détresse, parce que l'aidant, il va déprimer, parfois il consomme trop de médicaments, il va se mettre à boire, etc. Donc il faut qu'il y ait une attention notamment des médecins autour de l'aidant. La formation des aidants, c'est en tout cas, c'est France Alzheimer qui l'a mise, qui l'a institutionnalisée il y a maintenant presque 10 ans.
Oui.
Et nos actions, nos programmes de formation, dont je peux peut-être dire deux mots, c'est des programmes de ces 5 ou 6 séances.
C'est une de mes questions après la pause musicale.
Je peux le réserver pour après la pause.
Oui. Parce que, en fait, ce que vous dites est intéressant. La consultation mémoire, la consultation Alzheimer, faite par les gérontologues, les neurologues, en fait, c'est une consultation de couple. Avec le malade et l'aidant.
Oui.
Alors, la question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les souffrances du patient atteint de maladie d'Alzheimer et quelles sont celles des accompagnants quand la relation est défaillante. C'est-à-dire, vous nous avez dit, on s'occupe du malade Alzheimer et puis aussi on prend un temps pour s'occuper de l'accompagnant de ses souffrances. C'est deux consultations. Alors maintenant, les médecins généralistes disent, c'est un sujet par consultation, c'est peut-être un peu difficile, c'est pas une vision.
C'est un peu difficile, oui.
Mais
il faut savoir, faut que la personne malade puisse s'exprimer sa souffrance, c'est les questions qu'elle se pose par rapport à cette maladie. Il faut que ça lui soit proposé. Si vous avez des questions à poser, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, demandez. Voilà. Et pareil pour l'aidant, faut se tenir à sa disposition pour répondre à ses attentes. Alors, ces aidants, là où il faut être extrêmement sensibilisé, c'est aux signes de dépression.
Oui, c'est ça, parce que l'aidant peut, lui, tomber malade dû au fait qu'il devienne aidant.
Il peut tomber malade et il peut aussi déprimer tout simplement, hein, parce qu'il ne dort plus, parce qu'il est sans cesse sollicité, il n'a plus de temps à lui, tout tourne autour de la personne malade, il ne voit plus ses amis, il ne va plus au cinéma. C'est un sacré chamboulement dans la vie de l'aidant. Hein.
D'accord.
Et donc, il faut l'aider à s'adapter et à se préserver.
Y a-t-il fréquemment des ruptures entre les patients atteints de maladie d'Alzheimer et leur entourage?
Alors, rupture, je ne dirais pas. Je dirais plutôt relations compliquées. Et le type de relation qui peut être nocive, c'est quand il y a du côté de l'aidant, de l'autoritarisme, et du côté de la personne malade, des réactions un peu d'agressivité. Ça, c'est un schéma qu'on voit quand même assez souvent.
Et ça peut aller jusqu'à la rupture en disant « Non, on ne pouvait plus continuer comme ça. »
La rupture, que voulez-vous qu'il se passe? C'est éventuellement de faire entrer la personne dans l'institutionnalisation. Oui, oui.
Ça arrive. Hein.
Oui.
Et alors, le patient maladie d'Alzheimer qui est seul, sans famille, il peut vivre seul jusqu'à quel point
tout va dépendre de l'endroit où il vit, si c'est un logement qui est pas totalement isolé dans la campagne, s'il peut avoir des aides professionnelles, si ça peut se mettre en place, parce que actuellement il y a quand même parfois des difficultés à avoir une infirmière qui vienne pour donner les médicaments, une aide
l'auxiliaire. Ça devient difficile maintenant.
Voilà, et les choses deviennent difficiles. Mais si on arrive à mettre en place les professionnels, qu'il y a un petit peu de vigilance et qu'il n'y a pas d'incident, ça peut tenir
ça
un
peut
certain
tenir,
temps.
Parce que moi,
mais on ne peut pas le savoir à l'avance.
J'ai connu un temps où dans les quartiers ou dans les villages, bien souvent les gens qui n'étaient pas diagnostiqués, mais qui étaient dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, pouvaient être aidés par la structure. C'est-à-dire que le village aidait. Moi, j'ai vu des patients aidés par le village. C'est-à-dire qu'ils continuaient à vivre seuls, mais ils étaient aidés par le village ou dans les quartiers, parce que les quartiers étaient des petits villages. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Hein. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Mais aussi, vous nous écoutez à Nîmes en DAB+. Ou sur radioalliance+.fr. Nous recevons aujourd'hui le docteur Denis Strubel qui nous parle des accompagnants de malades atteints de maladie d'Alzheimer. Je vous propose une pause musicale en écoutant Debussy, Arabesque numéro 1 par Cicolini. Thank you. Alors, comment peut-on protéger les accompagnants de maladies atteints de maladies d'Alzheimer ?
Les protéger, ben, il faut les accompagner, il faut accompagner les aidants. Hein. Et ça passe d'abord par une bonne information. Il faut qu'ils connaissent la maladie, qu'ils connaissent les grands principes pour accompagner une personne malade, les erreurs à éviter, les droits, les structures qui peuvent aider, etc.
Excusez-moi, je vous coupe, excusez-moi. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de l'association, au sein de l'association, il y a une école des accompagnants, c'est-à-dire qu'il y a des cours ?
Non, ben, il y a une formation
des
aidants.
Formation
des aidants, c'est l'action principale
et ça se passe
de l'association. Et nous en faisons... Alors, c'est protocolisé au niveau national. Hein, et ça se passe en groupe de 10-12 personnes qui sont des aidants.
Oui.
Et qui sont regroupés pour 5 ou 6 séances. Ça dépend si on fait la 6e ou pas. Et l'animation se fait par une psychologue qui est spécifiquement formée, qui est payée, qui est rémunérée, et par un bénévole qui est aussi spécifiquement formé, qui est en général un ancien aidant.
Ouais, voilà, c'est un peu comme sur la forme des consultations thérapeutiques, l'éducation thérapeutique.
C'est pas vraiment... Non, ça répond pas.
Ça répond pas. C'est sur la forme un spécialiste un patient expert. Enfin, la psychologue qui est spécialiste de la maladie d'Alzheimer.
Un ancien aidant.
Voilà, puisque l'éducation thérapeutique, c'est un spécialiste médical, infirmier, médecin.
Nous en faisons, je vous en ai parlé d'autres fois. Mais là, c'est pour l'aidant, ça n'a pas les autres critères de l'éducation thérapeutique. Alors, il y a des sujets, pour les 5 ou 6 séances, il y a des sujets prédéterminés. Première séance, c'est toujours la connaissance de la maladie. Donc, il y a une partie informative, mais il y a beaucoup réponses aux questions. Il y a une séance sur les aides auxquelles qu'on peut solliciter. Il y a une séance sur la gestion du quotidien, comment on fait face aux difficultés, comment on organise la journée d'un malade. Il y a une séance sur les troubles du comportement, comment on fait face à l'opposition, à l'agressivité, à l'apathie.
Le comportement vers le comportement. Ouais.
Voilà, donc là, l'aidant, c'est peut-être une des séances les plus importantes. Et là, il y a une séance sur comment apprendre à me protéger comme aidant. Donc là, on insiste beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'aidants qui arrêtent de surveiller leur santé, qui
ma prochaine question.
Ils arrêtent les contrôles systématiques, et donc ce sont des sujets à haut risque. Et puis la dernière séance, elle est optionnelle, c'est comment préparer l'entrée en EHPAD.
Voilà.
Finis peut-être pour cette formation qui est en place depuis longtemps. Elle est gratuite pour les familles. Il faut qu'ils s'inscrivent. On en fait partout dans le département, dans des endroits divers, des CCAS, des EHPAD. Je crois qu'on en a fait 25 l'année dernière sur l'ensemble du département, donc avec les différentes séances. Et cette activité, nous, France Alzheimer, on rémunère la psychologue.
Parce
qu'il y a toujours un professionnel dans nos actions. Et cette action est en fait rémunérée par la CNSA, la Caisse nationale solidarité autonomie,
très bien.
Qui a par contrat renouvelé très régulièrement rémunère l'association nationale qui distribue ensuite. Voilà, sur justificatif bien sûr. Hein. Donc c'est une action qui est reconnue. Il y a d'autres actions de France Alzheimer qui sont financées par la CNSA, mais celle-là c'est la principale.
Alors ma question c'était comment peut-on accompagner les accompagnants et les aider ? Alors vous avez répondu, mais est-ce qu'il y a des consultations spécifiques au niveau de l'association pour les aidants ? Quand il y a un aidant qui a une problématique, est-ce qu'il y a des bénévoles ou un professionnel au niveau de l'association ? En tête à tête, quoi, pas en groupe.
Alors là, les contacts se font par téléphone ou les gens se déplacent à Marguerite, à notre siège. Et ils sont reçus très souvent par la psychologue, par la secrétaire de l'association, qui est la seule salariée, mais qui connaît très 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 bien à la fois la maladie, la situation des aidants et qui les oriente vers des actions. Quand il y a besoin, quand elle repère une détresse particulière, Immédiatement, elle peut mobiliser une psychologue. Ah, hein. L'association, nous avons 6 ou 7 psychologues qui travaillent pour nous, bien sûr pas à temps plein, hein, à la prestation, et notamment une des actions qu'on peut mobiliser immédiatement quand on a une détresse d'aidant, c'est quelques entretiens avec une psychologue qui peuvent se faire au domicile de la personne, qui peuvent se faire éventuellement aussi par téléphone. On l'a beaucoup utilisé pendant le Covid et qui débouche sur des propositions d'autres actions de l'association, dont la formation des aidants. Et après la formation des aidants, donc c'est une séance par semaine, une après-midi pendant 6 semaines. Et après, on propose à ces aidants, s'ils le souhaitent, de rentrer dans un groupe de parole.
Ah, très bien.
Alors, c'est une action au long cours.
Il y a une prise un peu personnelle.
Groupe de parole, c'est des petits groupes.
Personnel, puis après, il y a la possibilité de rentrer dans un groupe de parole.
Un groupe de parole, voilà. Alors, c'est des petits groupes, c'est des familles qui ont...
Géré par un professionnel, une psychologue.
Qui est géré par une psychologue. Là, il n'y a pas de bénévole, hein, puisque on est quand même dans des choses très intimes. C'est un groupe de parole. Et ça, on a en permanence sur l'association, on a une dizaine de groupes de parole qui fonctionnent sur le département, qui sont animés par nos psychologues.
Non, mais c'est très important, tout ce que vous faites. On vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, pour les patients, pour les gens. Mais alors, avec tout ce que vous nous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres particularités de France Alzheimer Gare, ou de France Alzheimer National, en plus, que vous faites pour les patients et les accompagnants que vous n'avez pas évoqués lors de ces émissions?
Alors, on réalise quasiment toutes les actions qu'a modélisé France Alzheimer. Donc, je vous ai parlé des deux principales. Là, c'est la psychologue en entretien d'urgence, les formations, les groupes de parole. On a une halte répit où on accueille quelques personnes malades toutes les semaines, une après-midi.
C'est
un accueil de jour à minima.
Voilà, pendant 2-3 heures, l'aidant a besoin de faire un rendez-vous médical ou un rendez-vous particulier ou faire des courses, il peut laisser le patient.
Mais surtout, on va s'occuper de la personne.
Voilà, c'est pas devant la télévision.
Il y a des ateliers qui sont faits. Alors, on fait aussi de la sophrologie pour les aidants ou pour les personnes malades et avec leurs aidants. On fait quelque chose qui marche très très bien. On le fait, chaque département développe un peu plus ou moins ses actions, les sorties agriculture qui intéressent, qui concernent les aidants avec leur personne malade. Ils peuvent venir avec la personne malade. C'est la secrétaire avec une bénévole qui organise, qui va réserver un créneau dans un musée. Par exemple, la prochaine, ça va être l'exposition Via là au Carré d'Art.
Ah, mais parfait, oui.
On attend la date du créneau. On nous réserve un guide. On a une petite heure de visite qui est adaptée quand même aux personnes malades. Et c'est suivi d'un temps convivial. On va au bistrot du coin et on va prendre un pot.
Le plaisir du patient... Alzheimer, voilà. C'est fondamental.
Absolument, et on est étonné souvent des réactions des personnes malades devant des œuvres d'art. Hein.
Il y a beaucoup de créations des patients Alzheimer, de peinture.
Et puis, ils restent très sensibles au beau.
Oui, moi j'ai eu des patients qui peignaient, qui faisaient des choses extraordinaires, qu'on avait étiquetées Alzheimer, qui étaient des artistes. Quoi.
Mais parfois, ils se lâchent dans l'art.
Bon, mais c'est
l'art.
Très bien. Il faut leur donner du plaisir, il faut se donner du plaisir. Il faut aimer. Eh bien, docteur Strubel, permettez-moi de vous remercier, de remercier l'association France Alzheimer et France Alzheimer Gare, ainsi que tous ses bénévoles, pour tout ce que vous faites, aussi bien pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, que pour leur entourage, leur accompagnant, merci infiniment. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, Accompagner la maladie d'Alzheimer et les autres troubles apparentés, de 2015 de Bernard Croisil chez Larousse, Alzheimer et maladies apparentées, parution du guide parcours de soins de la HAS, le guide parcours de soins de la Haute Autorité de Santé pour les patients ayant une maladie d'Alzheimer ou apparentée a été publié le 25 mai 2018. 100 idées pour accompagner une personne malade d'Alzheimer par France Alzheimer, l'association. Je vous rappelle les coordonnées de France Alzheimer 30, Gare, et maladie apparentée, 11 place du Calvaire, 30 320 Marguerite. Les téléphones sont 04 66 21 03 09 ou le 06 17 87 63 56. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.